À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. La Coupe du Monde féminine de football commence vendredi. La Burgienne Peggy Provost, ancienne joueuse de l'équipe de France, évoque ses débuts et l'histoire des Bleus. Revivez la journée du premier procès à Bourg des décrocheurs du portrait du président de la République. Le délibéré est annoncé pour le 12 juin. Le procureur a demandé des amendes pour chaque militant. Témoignage d'une prévenue et interview avec le maire de Pérouge, lui aussi décrocheur. Et quelques infos en bref à la fin de ce magazine. L'urgence climatique et le manque de mesures pour y faire face, c'est ce qui a poussé 6 citoyens militants d'action non violente COP21 Villefranche à agir. Début mars, une équipe d'une dizaine de personnes a décroché le portrait du président de la République de la mairie de Jassan-Riotier. Une opération sans violence ni dégradation à visage découvert. Suite à ce décrochage, le maire de Jassan-Riotier a porté plainte. 6 personnes ont été convoquées mardi dernier, le 28 mai, au tribunal de Bourg-en-Bresse pour vol en réunion avec ruse et pour 5 d'entre eux, refus de prélèvement ADN. Ils risquent au maximum 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Cette action n'est pas isolée. Le jour du procès, en solidarité avec les 6 prévenus, une dizaine de portraits d'Emmanuel Macron a été décroché, ce qui fait au total une 50aine partout en France. Des portraits ressortis pour plusieurs occasions, comme le premier vendredi du mois à Villefranche. Pour le mouvement, nous voulons des coquelicots pour dénoncer l'utilisation de pesticides dans le Beaujolais. Les militants insistent, le geste est symbolique des portraits réquisitionnés qui seront rendus, je cite, « une fois des mesures prises à la hauteur de l'urgence climatique ». Le mardi 28 mai, des centaines de militants, citoyens, burgiens, des alentours et même de Lille ont fait le déplacement pour soutenir les 6 prévenus. Juste avant le procès, ils ont remonté l'avenue Alsace-Lorraine à Bourg.
Nous sommes tous décrocheurs de portraits. Nous sommes tous décrocheurs de portraits. Nous sommes tous.
Donc merci à tout le monde d'être venu jusque là. Donc ça y est, nous sommes devant le tribunal avec les 6 prévenus, avec les 6 citoyens et citoyennes qui sont aujourd'hui jugés, non pas à cause d'un crime, mais à cause de leur courage et de leur détermination. Donc il faut surtout leur dire merci et un grand bravo. Donc bravo parce que ils ont accepté de porter une responsabilité qui appartient à l'État et que l'État refuse de prendre. Donc bravo à eux pour ça. Et bravo d'avoir été courageux et de rester courageux face à l'urgence du dérèglement climatique. Et là où le gouvernement fait la truche et il se cache derrière des beaux discours, mais qu'il n'y a rien derrière. Donc bravo à eux. Bravo à Anne-Sophie, à Hélène, à Jeanne-Marie, à Nicolas, et à Vincent et à Philippe. Encore une fois,
je suis la maman d'un des prévenus, le barbu, le jeune Jean-Marie, qui fait de la culture bio. Je l'admire, et on est plusieurs de la famille de ses frères et sœurs qui sont venus pour le soutenir. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à quelque chose. Moi, je ne serai plus là, mais pour mes petits-enfants, j'en ai 15. Je voudrais bien que la nature ne soit pas détériorée comme elle est, que la santé. Je suis infirmière de métier et je pense que c'est une très bonne chose et surtout que c'est des non-violents.
C'est mon petit frère qui est dans les six prévenus, je ne sais pas de quoi, parce que très sincèrement, ils ont décroché un portrait, ils ont fait des photos et c'est un peu une mascarade là. C'est plutôt Macron qu'il faudrait mettre en procès et lui dire qu'il y a un souci, non ? La planète, il s'est engagé. Les accords de Paris, visiblement, il les a signés, mais il s'en fout. Respecter ce qu'on a signé, c'est baisser les émissions, les gaz à effet de serre. Puis s'intéresser un petit peu plus aux voitures électriques plutôt que de remettre le diesel sur la voie. On est en train de nous dire que le diesel pollue moins. Oui, bah, quand on aura deux fois plus de véhicules diesel, on polluera autant que maintenant. Sauf que ce qu'on pollue maintenant, c'est déjà trop.
C'est une personne qui est très droite, qui travaille beaucoup. Il est maraîcher bio, donc il n'y a pas d'horaire, il n'a pas de jour de congé. Ça fait des années qu'il ne prend pas de vacances, qu'il arrive à peine à se payer. Enfin, c'est des métiers difficiles. Et là, c'est un peu ouais, le coup de massue qui nous arrive dessus, quoi. C'est un peu, voilà. On espère bien que, bon, déjà du ferme, c'est même pas envisageable. Ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est le premier procès, donc on a un peu peur que ça serve d'exemple, quoi. Donc voilà, après, moi, je vais suivre tout au long, je serai là pour lui, la famille, on sera là pour lui, tout le monde sera là pour lui.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Corinne Morel-Darleux, je suis conseillère régionale d'opposition à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis très fière et très heureuse de prendre la parole ici au nom de mon groupe d'élus en soutien à nos six prévenus, les tout premiers qui passent en procès pour décrochage de portrait présidentiel. Ils sont maraîchers bio, cadres en entreprise, futur pizzaiola, père et mère de famille, dans tous les styles, dans toute leur diversité. Et ils représentent à eux tous le fait que les questions de climat et d'extinction du vivant concernent tout le monde. Et parce que les premiers touchés, les plus précaires, ont eux rarement la parole, qu'ils ne peuvent pas souvent se mettre dans l'illégalité ou risquer de se faire arrêter, eh bien, nos six prévenus, eux, ont fait le choix d'agir, en leur nom à tous, de manière non violente, à visage découvert, au nom des 143 millions de migrants climatiques qu'il y aura d'ici 2050, au nom des 120 millions de personnes qui risquent de basculer dans la pauvreté à cause du dérèglement climatique d'ici 2030. Au nom des animaux, des plantes, des bactéries et des champignons, au nom de tout ce qui vit et bruisse et respire sur Terre et qui en fait la beauté. Ces six citoyennes et citoyens ont mis leur corps et leur liberté en danger, en conscience et en responsabilité.
Comment ça se fait que le bio coûte plus cher ? C'est pas normal. L'agriculture aujourd'hui qu'on appelle conventionnelle, c'est incroyable, elle pollue. C'est elle qui devrait être taxée. On devrait avoir une taxe pour polluer la planète. C'est pas normal de pouvoir continuer à polluer la planète. Tout devrait être retransformé. Moi, par exemple, bon, après, chacun fait comme il veut, mais moi, par exemple, je suis végétalien. Comment ça se fait que des fois, je paye plus cher mes repas alors que c'est pas carné ? Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Et tout est comme ça. Et rien n'est fait pour aider les personnes, les citoyens qui font des actions au quotidien. Je suis désolé, je parle avec plein de personnes qui ils essayent au quotidien de faire des choses et on les aide pas. On les aide pas. Et c'est incroyable de voir ça. Et donc, pendant ce temps-là, on est en train de mettre en justice des personnes qui ont décroché un portrait qu'on trouve sur le site de l'ISEE pour 8 euros. Et pendant cela, bah, je veux dire, il y a la destruction du vivant, ça se compte en centaines de milliards d'euros. C'est hallucinant. On est vraiment, on marche sur la tête.
Alors vraiment, merci à toutes et à tous d'être ici. Nous sommes très nombreux aujourd'hui et la salle du tribunal étant malheureusement assez petite, les prévenus vont devoir rentrer avec leur avocat ainsi que les personnes qui ont déjà été identifiées, qui peuvent déjà rentrer. Donc on va demander à ces personnes-là de se rapprocher de la grille. Donc on va essayer de faire un passage pour laisser passer nos prévenus. Et ne vous en faites pas, ça ne s'arrête pas là, ça continue.
Ils viennent de sortir du tribunal et s'apprêtent à nous rejoindre. Ils arrivent là-bas, au fond.
Un grand merci à toutes et à tous pour cette acclamation. Un grand merci pour leur courage, un grand bravo pour cette action. Maintenant, nous allons donner la parole à Maître Pochard pour qu'elle nous donne les conclusions du procès.
Alors, les conclusions, ce ne sera pas tout de suite. Je pense que vous le savez, l'affaire a été mise en délibéré, donc on aura la réponse le 12 juin ou peut-être plus tard. Le président a annoncé un potentiel délai. Après, on est là tous les trois. Pour un résumé, on a trouvé les réquisitions dures. C'est une peine, donc là, on a demandé la condamnation et une peine d'amende de 2000 euros et 1000 euros pour juste le vol. De notre côté, on pense que le tribunal a tous les éléments s'il veut entrer en voile de relax. On a plaidé la relax pour le refus de prélèvement ADN parce qu'on pense que les dispositions françaises ne respectent pas les normes européennes et que dans tous les cas, prendre l'ADN pour ces faits-là, ce serait totalement disproportionné. Ensuite, on a plaidé la question de l'état de nécessité sur le vol. Et là aussi, les déclarations étaient très pertinentes des six prévenus, très claires. Le tribunal a tous les arguments juridiques. Donc après, voilà, on s'en remet pour l'instant au tribunal. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Réponse au 12 juin.
On va maintenant entendre un témoignage d'Anne-Sophie et Jean-Marie.
Eh bien, de notre côté, ça a été fort en émotion. Déjà fort en émotion quand on est arrivé, parce que vous étiez tous là et que ça nous a mis un gros coup de boost au cœur. Donc, merci à vous. Après, on a eu une petite déception parce que nos témoins n'ont pas pu parler. Voilà, le juge n'a pas accepté le fait qu'ils soient témoins. Cependant, on a quand même eu pas mal de temps pendant le procès pour expliquer ce qu'on faisait et avancer nos arguments. Donc ça, c'était super chouette. Fort aussi en émotion. C'est pas tous les jours qu'on va au tribunal, donc voilà, c'était pas évident.
Et il y avait un procureur qui était très inconsistant, je dirais, mais c'est mes mots, à vouloir nous dire que c'était une tribune, un coup de pub, on a entendu même une fois... Hein. Alors qu'on n'arrêtait pas de nous lui parler du fond et qu'on disait qu'il y avait les personnes dans les témoins qui auraient vraiment pu apporter ce fond scientifique. Donc là, pour nous, c'était un peu un départ un peu bizarre. Et puis après, paradoxalement, le président a laissé la parole vraiment plutôt facilement à nous six au fur et à mesure. Et avec nos avocats qui ont relancé, ils ont fait un super boulot. Ils sont trop géniaux. Merci, merci.
Un grand merci à tous et à toutes. Merci à vous d'être ici, d'être mobilisés. On va terminer avec une prise de parole de Paul Vernet, qui est maire de Pérouges et qui, pour l'occasion, a transporté avec lui un petit cadeau qu'il a décroché de sa mairie.
Paul Vernet, je suis maire de Pérouges, donc une commune de 1300 habitants environ sur la Côtière, qui est l'un des plus beaux villages de France. Moi, j'ai une sensibilité écologique qui est très forte, donc depuis de nombreuses années. Et là, quand j'ai été au courant de cette manifestation, de ce procès, je me suis proposé pour intervenir. Et puis, dire que les élus, ils peuvent agir aussi sur les plans climat. Il y a urgence à agir au niveau du climat et que c'est absolument tout ce qu'il faut qu'on travaille ensemble, les élus, la population, au niveau collectif, individuel. Alors effectivement, il m'a semblé que j'étais le seul élu présent. Bon, il y a d'autres élus écologistes sur le département. Mais il faut qu'on bouge absolument. Juste un chiffre au niveau du département, sur la station météo d'Ambérieu, la température a augmenté depuis 60 ans de 2,1 degrés en moyenne sur l'année et de 2,9 degrés sur la saison d'été. Donc voilà, tous les chiffres et toutes les analyses qu'on fait sur l'urgence climatique, sur le danger au niveau de l'agriculture, de la santé, des migrations humaines, de la biodiversité, les études scientifiques maintenant montrent que c'est exact.
Vous vous sentiez seul aujourd'hui et globalement comme maire, est-ce que vous vous sentez seul dans le département de l'Ain ?
Oui, je vais répondre oui. C'est globalement difficile dans certains secteurs de porter les questions écologiques. Moi, je suis sur la plaine de l'Ain. Il y a d'autres secteurs du département où il y a peut-être des dynamiques qui sont un peu plus importantes. Je pense par exemple au plan climat sur l'agglomération de Bourg ou sur les secteurs de Belley, où on sent vraiment qu'il y a des dynamiques, des actions qui se mettent en place, des moyens financiers et des élus qui s'impliquent très très fortement dans ce plan climat. Ce plan climat CMA qui est obligatoire pour les communes pour combattre le changement climatique qui va nous toucher tous.
Europe Écologie avait déjà fait un bon score aux européennes. Là, comment vous prévoyez la suite ?
Là, on peut penser que ce score va être un peu un déclic. Donc les municipales, l'année prochaine, il y aura forcément des discussions à faire avec d'autres partenaires, à créer des projets. Donc les responsables écologiques ont bien dit, ce n'est pas des accords d'appareil, mais on veut discuter sur les projets qu'on veut mettre en place, voilà, sur l'agriculture, comment on fait évoluer, sur les transports, sur le logement, pour poursuivre les logements sociaux, parce que c'est effectivement une des priorités. Moi, je vois sur la plaine de l'Ain, c'est reconnu que la demande de logement est très importante, y compris pour les employés qui travaillent dans les entreprises. Donc nous devons gérer ces problèmes-là. Et c'est vraiment, il faut prendre les choses globalement.
Il y a quelques heures, Hélène était face au juge. La trentenaire va maintenant reprendre un rythme de vie plus calme.
Le mois de préparation du procès, les deux mois là, étaient vraiment intenses. Donc déjà, reprendre une vie un peu plus calme, ça me fera du bien. Et puis après, continuer à militer pour le climat, pour qu'il y ait les choses qui avancent aussi. Je ne sais pas sous quelle forme encore, mais voilà, on va reprendre nos activités à Alternatiba, à NV COP 21 Villefranche. Et puis reprendre, là on a fait un petit peu moins de réunions pour le local, nos réunions mobilité, nos réunions sur les déchets. Elles ont été un peu mises de côté pour préparer le procès. Donc là déjà on va reprendre ce travail-là, je pense. Et accueillir nos nouveaux sympathisants, parce qu'on a eu aussi beaucoup de soutien à Villefranche. Donc on va sûrement avoir de nouvelles personnes à accueillir dans le mouvement.
Pour terminer, concrètement, vous attendriez quoi comme mesure du gouvernement pour le climat ?
Moi, je crois que la première mesure vraiment qui me ferait le plus plaisir, enfin celle qui me semble la plus importante là maintenant tout de suite, c'est... de changer d'orientation sur les transports. Et par exemple, en Suède, le gouvernement a décidé d'arrêter des lignes aériennes à l'intérieur du pays parce qu'elles étaient 100 fois plus pollueuses que le train et que rejoindre les deux villes se faisait en une heure de plus en train qu'en avion. Et moi, par exemple, ça serait ça, parce que ça, c'est des décisions qu'on ne peut pas prendre, nous, dans la ville de Villefranche. Et c'est pas des décisions locales. Et vraiment, de commencer à penser notre transport autrement, ça serait pour moi la première mesure à faire.
Et un petit message aux citoyens, puisque bon, il y a le gouvernement, les gouvernements qui doivent prendre leurs responsabilités, mais il y a aussi les citoyens.
Les citoyens, je pense qu'il y a déjà une bonne partie des citoyens qui sont mobilisés avec les grèves pour les jeunes, les marches climat, et de se dire qu'on reste toujours déterminés et mobilisés et qu'on a besoin de tout le monde.
Hélène, l'une des 6 prévenues du premier procès des décrocheurs au tribunal de Bourg-en-Bresse. 9 procès vont suivre, fin juin à Strasbourg, à Bonneville, et en septembre à Paris et à Lyon, et toujours à Lyon, un autre est aussi prévu en février 2020. Le jeudi 23 mai, une tribune signée par plus de 80 personnes, dont le journaliste Daniel Mermet, Cyril Dion, réalisateur, ou encore l'économiste Michel Husson, sur le site reporter.net, appelle à décrocher d'autres portraits du président de la République pour atteindre le nombre de 125. Alors, pourquoi 125 ? Eh bien, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à la France pour dépasser son empreinte écologique.
Radio B.
Pourquoi le foot ? Mes deux frères jouaient au football. On habitait en face du stade à Mézéria et donc j'ai joué au football dès l'âge de 6 ans. J'ai eu l'occasion d'évoluer en mixité jusqu'à 16 ans. Et ensuite, je suis partie à Mâcon-Flacé, Caluire-et-Cuire et ensuite à Juvisy-sur-Orge pour évoluer en équipe de France.
Restez à l'écoute du 90 FM, on se retrouve dans quelques minutes.
Gloria, I have my eyes on ya. Gloria, Gloria, I have my eyes on ya. Gloria, Gloria, I have my eyes on ya.
success is gold, but you won't have my soul. I keep my freedom deep into my bones. I keep my freedom as it was my home. But glitter never lasts. Gloria, Gloria, I am my Sonia. Gloria, Gloria, I am my Sonia. Oh, Gloria, everybody wants ya. Success is bold, but music is old. Oh, Gloria, I had dreams about ya. Yes, success is gold, but I won't give you all. I keep it to my heart, places full of art. I stop turning my head to see where you are. No, we are not your slaves. Oh, Gloria, keep looking at yourself. I'm watching your back. Gloria, Gloria.
Jane sur Radio B avec Gloria. L'artiste toulousaine a été choisie pour chanter ce morceau pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde féminine au Parc des Princes à Paris ce vendredi le 7 juin. Ça sera juste avant le premier match France-Corée du Sud à 21h. À vous les Burgiens sur Radio B 90FM. Peggy Provo est l'une des pionnières du football féminin. Née à Bourg, l'ancienne footballeuse internationale compte 91 sélections avec l'équipe de France. Aujourd'hui entraîneur au Pôle France de l'INSEP, centre d'excellence du sport de haut niveau en France, elle évoque ses débuts sur le rectangle vert et le mondial féminin.
Pourquoi le foot ? Mes deux frères jouaient au football. On habitait en face du stade à Mézières et donc j'ai joué au football dès l'âge de 6 ans. J'ai eu l'occasion d'évoluer en mixité jusqu'à 16 ans. Et ensuite, je suis partie à Mâcon-Flacé, Caluire-et-Cuire et ensuite à Juvisy-sur-Orge pour évoluer en équipe de France.
Comment cela se fait-il que vous n'avez pas évolué à Bourg ?
À Bourg, dans un premier temps, j'ai joué chez les garçons en mixité. Et après, effectivement, le club féminin aux alentours était Mâcon-Flacé. Donc à l'époque, Bourg-en-Bresse n'avait pas de section féminine. Sinon, effectivement, j'aurais été ici à Bourg-en-Bresse, au contraire, avec plaisir.
Votre carrière s'est terminée en 2009. Que retenez-vous de ce parcours ?
Beaucoup de plaisir, des moments exceptionnels. La première qualification à la Coupe du Monde 2003, France-Angleterre à Saint-Etienne. Match de barrage, on gagne 1-0, stade Geoffroy-Guichard, donc stade des pros. 24 000 personnes, donc stade plein, le chaudron comme on dit. Et donc c'est un des meilleurs moments. Coupe du Monde 2003, ensuite Euro 2005. Et ensuite que des bons moments et des moments de partage.
Quelles évolutions avez-vous remarquées entre vos débuts en 1992 et 2019 ?
Oui, effectivement, beaucoup d'évolutions, hein, parce qu'aujourd'hui, les clubs sont professionnels, avec l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, Montpellier, sont des clubs qui ont le statut pro. Donc forcément, par rapport à ça, les filles sont dans les conditions idéales pour pouvoir s'entraîner. Nous, à l'époque, on s'entraînait tous les soirs, donc après la journée d'études ou après la journée de travail. Aujourd'hui, les filles sont dans les conditions de pouvoir s'entraîner le matin ou l'après-midi. Donc forcément, dans le cadre des déplacements et des matchs qui sont organisés, tout est fait pour bien récupérer et bien s'entraîner.
Peut-on dire actuellement qu'il est difficile d'être une fille et de jouer au foot ?
Non, je crois que les mentalités ont changé aujourd'hui. Même si on est une fille, on peut jouer au foot. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Effectivement, les pionnières et nous, et j'en fais partie, on s'est battu pour se faire reconnaître. Aujourd'hui, le foot féminin prend une place importante et elle est reconnue. Donc à partir de là, on peut jouer au football comme un garçon.
Quelle est selon vous la signification d'une femme qui joue au foot ?
La signification, c'est la technicité. C'est le plaisir et la technicité par rapport au jeu qu'est le football. La facilité de pouvoir bien jouer au football.
Peggy Provo, racontez-nous votre expérience au sein de l'équipe de France.
Donc, au sein de l'équipe de France, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir accéder à la Coupe du Monde. Enfin, en tout cas, le championnat du monde reste le titre le plus demandé, le plus voulu, le plus regardé, le plus médiatique. Et donc on a eu la chance de le faire. On ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale. En tous les cas, on a fait les matchs de poule. On l'a vécu aux États-Unis en 2003, c'était extraordinaire. Ensuite, l'Euro 2005. On aurait pu effectivement aussi sortir de poule et se qualifier pour les quarts de finale. On n'a pas pu. Ce but contre la Norvège du 2-1, on n'a pas réussi à le marquer. Tout au moins, on l'avait marqué, mais refusé sur hors-jeu. Et après, derrière, que des moments de qualification, parce qu'en fait, à l'époque, c'était faire connaître l'équipe de France, permettre à l'équipe de France de se qualifier pour les championnats d'Europe et pour la Coupe du Monde, et après tout faire pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc moi, c'est la génération d'après qui a pu se qualifier, mais en tout cas, on a œuvré pour qu'elle le fasse. Et à l'occasion de ma carrière, on a pu créer le Pôle France à Clairefontaine, où là, on a pu intégrer des filles. J'en faisais partie en tant que joueuse et on s'entraînait tous les jours dans les conditions idylliques du temple de Clairefontaine.
L'équipe de France féminine participera au Mondial en juin prochain. Quel conseil donneriez-vous aux joueuses et l'entraîneur ?
Le plaisir de jouer, plaisir de gagner. Je l'ai toujours dit déjà en tant qu'entraîneur adjoint, je le disais aux filles, je le dis encore à celles que j'ai au téléphone. Corinne Diacre, elle connaît son métier parfaitement, je lui souhaite le meilleur avec son staff. Je suis persuadée qu'elle va réussir, elle va tout faire pour. À partir du moment où on a le plaisir de jouer ensemble, on a un objectif commun, donc c'est de gagner.
Serait-il possible de vous voir un jour sélectionneur de l'équipe de France féminine ?
Pourquoi pas un jour ? C'est les opportunités qui feront. En tout cas, je souhaite tout mon soutien à Corinne Diacre, le staff en place actuellement.
Peggy Provo, l'une des pionnières du football féminin. Née à Bourg, l'ancienne footballeuse internationale compte 91 sélections avec l'équipe de France. Le musée itinérant « Il était une fois les Bleus » s'est arrêté au Stade Verchères à Bourg début mars. L'ancienne footballeuse française Peggy Provo raconte l'histoire des Bleus et les coulisses de l'exposition. Voilà comment tout a commencé.
C'est la première équipe de France féminine, donc avec la reconnaissance officielle d'une équipe de France. À cette époque-là, donc il n'y avait pas de football féminin en France. Par contre, il y avait des filles qui évoluaient, qui jouaient, mais pas de manière reconnue. Par contre, le 29 mars 1970, il y a eu la reconnaissance officielle. Et donc là, c'est les premières filles, donc c'est forcément un moment émouvant, c'est les premières filles qui ont pu évoluer et porter le maillot de l'équipe de France.
Pourquoi il n'était pas reconnu avant le football féminin ?
Parce qu'il n'existait pas, les clubs étaient masculins. Ensuite, dans les années 80-90, on va dire essentiellement masculins. Et aujourd'hui, on va dire que les clubs sont féminins et masculins. Donc là, à l'époque, dans les années 70, les clubs, il n'y avait que des clubs garçons. Et les filles, elles jouaient dans la cour de l'école comme sur un rassemblement entre elles. Elles ont l'opportunité de faire un match international, notamment le 29 mars 1970, pour pouvoir jouer un match, donc le premier match international qu'on voit ici, France-Angleterre. Elles ont pu, donc, à Manchester, jouer devant 25 000 personnes. Alors pourquoi autant de monde ? Ça génère de la curiosité. Et donc, beaucoup de monde autour du terrain pour voir effectivement des femmes évoluer.
Donc là, la reconnaissance.
Voilà, donc là, entre les deux tableaux, après l'étape, donc, du coup, du début de l'aventure et de l'histoire. Après, c'est l'étape de la reconnaissance. Donc, c'est les premières équipes de France avec une qualification pour l'Euro 2017 sous l'égide des Mémignaux. Donc là, c'est les premières générations qui commençaient à se qualifier. Donc là, si vous voulez, pour évoluer, il fallait jouer, du coup, comme moi à l'époque, en mixité jusqu'à 16 ans. Et ensuite, chercher un club le plus proche. Mais le plus proche, c'était déjà loin pour nos parents, pour jouer qu'avec des filles. En tous les cas, Aimé Mignot, lui, a pu qualifier l'équipe en 97 pour le championnat d'Europe. Ensuite, on enchaîne sur l'époque, parce que moi, j'étais entre les deux. Hein, je suis sélectionnée en équipe de France. Je suis reconnue par Aimé Mignot, qui était sélectionneur A, mais j'étais jeune, donc j'évoluais en 16 ans. Il m'avait détecté en 16 ans. Et ensuite, j'intègre l'équipe de France le 15 février 97, avec, après l'Euro, la possibilité d'évoluer et de préparer l'Euro 2001. Ensuite, la Coupe du Monde 2003, là, c'est une deuxième étape. Donc après la reconnaissance, on arrive à se faire plus que reconnaître, c'est qu'on existe et on se qualifie pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde en 2003, elle a eu lieu aux États-Unis. Donc là, forcément, en tant que joueuse, ça fait que vibrer que d'aller dans un pays où le football féminin est roi.
C'est un moment sport marquant.
Voilà, exactement, c'est marquant. Puis c'est le sport roi là-bas. Donc c'est vraiment leur sport numéro un. Et donc nous, se qualifier pour évoluer là-bas, c'était une super expérience. Derrière, on a le championnat d'Europe 2005. Pareil, on se qualifie, on ne sort pas des poules malheureusement, alors qu'on aurait pu. Donc ça, c'était sous l'égide d'Elisabeth Loisel. Ensuite, à partir de 2009, arrive Bruno Bindi. Donc là, lui, à la première étape qui est l'Euro 2009. Deuxième étape qui est vraiment, donc après la reconnaissance et le fait de se faire connaître, 2011, Coupe du Monde en Allemagne, où là, on commence à dire, ouais, l'équipe de France est dans le top 4. Et donc là, il a la chance de pouvoir aller en demi-finale.
C'est une équipe de France qui s'affirme un peu.
Voilà, une équipe de France qui s'affirme et qui est reconnue sur le plan médiatique. C'est qu'avant, en conférence de presse, on n'avait personne, ou peut-être un ou deux journalistes. Et après, en 2011 et après 2011, on a beaucoup de monde, beaucoup plus de sollicitations. On existe, on est reconnu. Et que le football, on ne dit plus football féminin, football masculin, on dit football. Donc ça, c'était une super étape parce que le football était vraiment reconnu en France. Deuxième étape, c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est la première fois que l'équipe de France se qualifie pour les Jeux Olympiques à Londres. Donc 2011 et 2012, on est dans le dernier carré. Donc les deux fois, les étapes, on prouve qu'effectivement, on est dans le top 4. Derrière, bah, effectivement, on a eu Coupe du Monde au Canada. On a eu l'Euro 2017 avec Olivier Chouafny. Là, moi,
j'étais adjointe.
Exactement, j'étais entraîneur adjointe. On perd en quart de finale contre l'Angleterre. L'Angleterre, c'est toujours très, très serré.
C'est un moment marquant.
C'est sûr, parce qu'en fait, déjà sur les matchs amicaux, les matchs de préparation, on les avait gagnés. Sur ce match-là, on peut marquer avant.
Manque d'expérience ?
Oh, manque d'expérience, je ne sais pas. Peut-être l'expérience du championnat d'Europe, on l'a eu. Hein. Expérience de quart de finale, on l'a eu aussi. C'est des détails. Je crois que le haut niveau, et on le verra sur la Coupe du Monde, c'est des détails. Et nous, on a quelques détails qui n'ont pas fonctionné. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir concrétiser nos actions avant. Elles l'ont fait. Et le 1-0, après, sur un match comme ça, c'est très difficile de revenir. Donc à partir de là, je crois que les deux équipes se valent. On le verra encore à la Coupe du Monde. Il faut compter sur l'Allemagne, l'Angleterre, Japon, États-Unis, la France. J'espère qu'on va pouvoir justement tourner ces petits détails en notre faveur et nous permettre de gagner. Parce qu'en tous les cas, on a l'équipe. Vraiment, cette équipe de France qu'on voit là depuis de 2015, 2017 jusqu'à là maintenant 2019, qui est aujourd'hui pilotée par Corinne Diacre, mérite de gagner un titre.
Elles sont tout près du but, mais...
Exactement, ouais. Ça c'est vrai. C'est vrai, et en tout cas elles ont tout pour... Elles ont les conditions en club, elles ont les conditions en équipe de France, elles font vraiment du travail, elles sont très professionnelles au quotidien, elles donnent beaucoup de leur temps, et aujourd'hui la récompense c'est un titre pour toute l'équipe que je vois ici en photo, elle mérite de gagner pour tout le football féminin français, pour toute la France de manière générale, elle mérite de gagner devant son public, alors on espère beaucoup de monde dans les tribunes avec beaucoup de soutien. Mais en tout cas, c'est vrai que ce titre nous permettrait de concrétiser de longues années de travail, de reconnaissance, de confirmation et justement de victoire.
En plus, vous faites partie de toute cette histoire.
Exactement, moi je retrace plusieurs histoires. Moi j'ai eu la chance d'arriver en 98 avec les garçons. Donc forcément là, c'était le premier plan de développement du foot féminin qui était piloté par Aimé Jacquet. Parce qu'on s'était questionné pourquoi beaucoup de femmes dans le stade, pourquoi beaucoup de femmes dans la rue pour supporter les bleus, garçons. Ben c'est parce que c'était le fait qu'il y ait beaucoup de filles qui jouent au foot, qui accompagnent, mais qui jouent aussi. Donc Aimé Jacquet avait fait son premier plan de développement du foot féminin. Ensuite, il a été impulsé par Noël Le Graët dès qu'il est arrivé en tant que président. Aujourd'hui, par Brigitte Henriques, qui est vice-présidente de la fédération. Ancienne joueuse, ancienne internationale, ancienne entraîneur également au PSG. Donc beaucoup d'expérience pour mener à bien cette équipe. Et sélectionneur aujourd'hui, c'est Corinne Diacre.
Là, c'est les femmes importantes du football féminin.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, la fédération sous l'égide de Babette Boujard, donc, qui est l'initiatrice de ce musée, hein, pour pouvoir sortir les 23 joueuses qui représenteraient des légendes du football féminin. Alors plusieurs algorithmes ont été faits, notamment le nombre de sélections, surtout le nombre de titularisations. Donc, parce que sélectionner c'est bien, mais il faut aussi être titulaire. Ensuite sur la durée et ensuite sur les générations.
Et vous, Peggy Provo, donc vous faites partie de ces femmes.
Oui, j'ai la chance de pouvoir y être. Donc là, du coup, en tant qu'arrière latéral gauche, effectivement, en 98, j'ai intégré l'équipe de France A. À partir du moment où j'y étais, effectivement, j'ai joué tout le temps. J'ai juste une période où je n'ai pas pu jouer suite à une blessure au genou, où effectivement, il y a une quinzaine de matchs que je n'avais pas pu faire. Mais sinon, sur la période où j'étais sélectionnée, j'ai pu et être sélectionnée et jouer sur... quasi tous les matchs, c'est une grande fierté forcément d'être parmi toutes ces copines, collègues, joueuses, coéquipières, parce que j'ai beaucoup joué avec l'ensemble de ces filles-là, et c'est très bien. Alors là, 4 fois championne d'Europe, donc là c'est sous l'égide de Bruno Bigny, à l'époque il avait les petites, donc là moi j'ai la chance d'avoir eu Kadi Diani qui est au PSG, et Aïssa Tunkara qui est à l'Atlético de Madrid, je les ai eues à Juvisy, et donc aujourd'hui elles sont en A. Mais elles sont championnes du monde U17 et championnes d'Europe U19. Donc là, effectivement, c'est la génération qui gagne. Hein. Aujourd'hui, elles sont en équipe de France, certaines. C'est la génération qui a commencé à gagner. Donc la première en 2003, ensuite c'est 2010, 2013 et 2016. C'est les premiers titres gagnés par les sélections U17 ou U19.
On se dit qu'avec cette génération, on peut gagner la Coupe du Monde.
Voilà, exactement. Elles ont été prêtes à gagner. L'envoi Sarah Bouadi, Gaëtan Tinet embrasser le trophée. Elles sont prêtes à gagner. Elles ont gagné dès leur plus jeune âge. Hein. C'est la première génération en 2003. Elles sont prêtes à soulever le titre en 2019. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus.
La suite de l'histoire, ce serait quoi ?
Oui, c'est un titre dans un premier temps. Un titre chez nous. Gagner un championnat d'Europe, gagner les Jeux Olympiques et puis un développement qui continue à se faire au quotidien, que ce soit dans les clubs de masse, dans les clubs d'animation, comme dans les clubs d'élite et dans les clubs pro. Je crois qu'aujourd'hui il faut une place pour tout le monde. La petite jeune joueuse qui veut évoluer pour du loisir, elle a sa place, comme la joueuse qui veut évoluer en compétition, elle a également sa place. Donc l'idée, c'est que chaque club puisse accueillir toutes ces jeunes filles et leur permettre de s'épanouir. Du moment qu'on s'inscrit dans un collectif, qu'on gagne ensemble, qu'on perd ensemble, parce que c'est aussi ça, il faut savoir perdre ensemble. Mais à partir de là, on peut faire un bon parcours de vie. En général, on est bien éduqué et ça se passe bien aussi dans notre vie de tous les jours, grâce au football.
La Coupe du Monde féminine de football, c'est du 7 juin au 7 juillet à Grenoble, Nice, Valenciennes, Paris, Lyon ou encore Rennes. La billetterie à l'unité est ouverte. Il n'y a plus de place pour les demi-finales et la finale, mais il y a encore des billets pour les matchs de poule. Plus d'infos sur le site fifa.com et dans la rubrique billetterie. Un reportage de Solène Anson, reporter pour Radio B.
Radio B, Radio B.
Quelques infos en bref. Des migrants au tribunal de Bourg-en-Bresse. 17 jeunes hommes en procédure sont installés dans une maison avenue du Mail à Bourg. Une maison réquisitionnée par le collectif Solidarité Migrants Bourg-en-Bresse. Fin avril, un huissier est passé pour constater l'occupation. Bourg Habitat, propriétaire, a porté plainte pour dégradation du bien d'autrui, entrée par effraction et violation de domicile. Le collectif appelle à un rassemblement de soutien devant le tribunal ce jeudi 6 juin dès 8h30. La santé du pied, après midi d'infos par la CPM de l'Ain, c'est ce jeudi 6 juin au centre d'examen de santé de rue Pavé d'Amour à Bourg, de 13h30 à 16h30. Un podologue diplômé d'État sera présent pour examiner vos pieds. C'est ouvert à tous. Le bac, c'est dans 15 jours. Radio B a pensé à tout. Chaque mois, depuis la rentrée, des élèves du lycée Saint-Pierre à Bourg ont réalisé des chroniques sur le programme d'histoire géo de terminale. Revoyez les mémoires de la guerre d'Algérie, la mondialisation ou encore la place de la Chine dans le monde en moins de 10 minutes. Passe ton bac d'abord, des chroniques à écouter sur notre site radio-b.fr dans la rubrique « Les émissions » et la sous-rubrique « Société ». Dispositif spécial bac dans les médiathèques Césaire et Vaillant de Bourg du 6 au 15 juin. Horaire d'ouverture élargi, aide à la révision avec des profs de maths, éco, histoire géo et physique, wifi gratuit, des espaces de travail à l'intérieur et à l'extérieur. Bon courage à toutes et à tous pour les révisions. Une fois le bac passé, autre examen, ce sera le temps de profiter du beau temps. À Carédo, par exemple, ouverture des bassins extérieurs du 15 juin au 1er septembre, du lundi au vendredi, de 10h à 20h, et le samedi, dimanche et jour férié, de 10h à 19h. À noter pour les enfants dès 6 ans, des stages de natation pour apprendre à nager ou se perfectionner. C'est sur inscription, plus d'infos à Carédo. Bouvance, mais aussi en mode été, reprise des activités sportives gratuites. C'est les samedis et dimanches matins de 10h à 11h jusqu'au 25 août. Au programme Qigong, cardio, combat, zumba ou encore yoga. Programme complet sur le site de la ville, bourg-en-bresse.fr. Une question pour les ados et ce bientôt dans le monde du travail. Connaissez-vous tous les moyens pour vous déplacer ? la mission locale de Bourg et plusieurs partenaires, comme le pôle sécurité routière de l'Ain, organise un forum mobilité le mercredi 12 juin de 14h à 17h. Découverte des aides possibles, financières, pour un abonnement de bus, un plat d'essence et quelques leçons de conduite, ou encore pour payer son permis de conduire, et des infos sur les comobilités et le covoiturage. C'est à la mission locale au 5 Terres, avenue des Sports, à Bourg. Les Colibris de Bourg-en-Bresse s'interrogent sur les lieux où nous vivons et sur les alternatives comme l'habitat participatif. Réunion publique le jeudi 13 juin à 19h, 8 rue Alphonse Masse, entre la rue de la Citadelle et l'ancienne caserne Aubry. Un lieu pas choisi par hasard, c'est là où va s'installer le premier habitat participatif de Bourg-en-Bresse. Un repas partagé prévu après la réunion, apportez quelque chose et vos couverts. Toutes les infos sur le site des Colibris. colibri-wiki.org. Un futur habitat participatif et bientôt une monnaie locale sur le grand bassin de Bourg, le Brin, B-R-A-I-N, devrait bientôt être lancé, mais ses créateurs ont encore besoin de vous pour développer ce projet. Deux réunions publiques sont organisées dans les prochaines semaines. Ce mercredi 5 juin, à la salle de la Rotonde à Perona, de 19h30 à 21h30, et le mercredi 12 juin, à la salle du Pelou à Césaria, de 20h à 21h30. Plus d'infos sur le projet et les réunions sur le site mlcbr01.wixsite.com. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Solène Anson, reporter pour Radio B, et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h. Et à tout moment sur notre site radio-b.fr.